Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Oscar Moudiaï Mwena Kalenda. Il est homme politique congolais, ancien commissaire spécial pour le Nord Katanga pendant la sécession katangaise. Actuellement, il est cofondateur de l'Alliance des Patriotes Congolais, APC. Monsieur Moudiaï, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, c'est un honneur pour moi.
Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de toutes les fonctions que vous avez occupées depuis 1960 jusqu'à ce jour. Vous avez travaillé pratiquement avec tous les régimes. On va en parler dans cette émission, mais on parlera aussi du rôle que vous avez joué pendant la sécession katangaise. Vous allez nous expliquer c'était quoi exactement le rôle du commissaire spécial pour le Nord Katanga. C'est tout à l'heure, mais avant cela, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous voyez le jour un certain 1er février 1934 à Louboudi.
C'est bien ça, c'est le chiffre 1, 2, 3, 4.
Louboudi, c'est dans la province du Katanga. C'est là où vous avez grandi?
Non, j'ai grandi à Elisabethville, un peu à Likasi, à Jadeville, mais surtout à Elisabethville.
Et c'est à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, où vous avez fait vos études.
J'ai fait mes études à l'Institut Solvay, l'Institut de sociologie Solvay, qui relève de l'Université libre de Bruxelles. Et j'étais le premier étudiant sorti du Katanga.
Vous avez fait vos études à l'étranger?
J'ai fait à Elisabethville, à l'Institut de sociologie Solvay, qui venait de se créer avec l'université officielle du Congo belge et du Rwanda, où on dit. Et ensuite, j'étais à Bruxelles.
Vous avez fait des humanités gréco-latines?
C'est exact. J'ai fait des humanités gréco-latines et j'ai fait trois années de philosophie au grand séminaire de Baudouinville.
À Moba. Vous avez accompli ensuite des études supérieures en planification et gestion des entreprises en Italie.
En Italie, oui, j'ai fait la gestion des entreprises. C'était des études qui nous orientaient à la création de l'Institut de la gestion du portefeuille, qui était très épars et qu'il fallait reconstituer au Congo.
Vous avez fait ces études-là en Italie, aux États-Unis?
D'abord aux États-Unis, tandis que la planification des investissements utiles, je les ai faites effectivement aux États-Unis.
Alors, c'est des bourses que vous receviez en ce moment-là ou c'est par vos propres moyens que vous avez décidé d'aller suivre ces études à l'étranger?
Les études en Italie ont été recommandées par la coopération italienne, qui avait négocié avec le président de la République et qui a choisi deux personnes pour aller faire ses études. Monsieur Birindwa, l'ancien Premier ministre, et moi-même. Tandis que les études de planification ont été faites à l'époque de la coordination économique du Congo, qui était pratiquement supervisée par l'ONU. Et c'est par l'ONU que j'ai eu la bourse pour aller aux États-Unis.
Et donc, c'est des études faites pendant que vous occupiez certaines fonctions politiques déjà?
C'était des études faites en fonction d'un service qui devait être créé.
Parlons de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
J'ai grandi dans de très bonnes conditions, Dieu merci. Mon père était un assistant médical. J'ai étudié régulièrement. J'ai toujours vécu effectivement sans problème majeur. Je suis un deuxième fils dans une famille de 11 enfants et tous ont grandi tout à fait normalement, avec beaucoup de chance. J'ai toujours eu des relations très bonnes avec tout mon entourage. Avec les Belges à l'époque des Belges, avec les Congolais toujours, et avec les Aïrois et avec les Congolais aujourd'hui.
Vous n'étiez pas un garçon turbulent?
J'étais turbulent, non, très organisateur généralement de tous les jeux. J'ai toujours été un peu le chef animateur de petits jeux de quartier, de petites écoles.
Vous aimiez dominer ou ce sont vos amis qui voulaient assez que vous puissiez être chef?
Non, j'organisais, mais j'ai toujours refusé le titre d'être chef. Je me suis toujours arrangé pour désigner le chef. Tandis que j'ai toujours...
Pourquoi?
C'est plus libre. On est plus libre quand on organise quelque chose. Que lorsque c'est vous-même qui vous mettez en tête.
Et lorsque vous êtes en tête, vous pensez que vous n'êtes pas libre?
Lorsque vous êtes en tête, vous exécutez. Vous exécutez les choses que vous avez organisées. Vous devenez celui qui doit, qui est mis sous le contrôle de ceux que vous avez constitués, tandis que je préfère mettre quelqu'un en tête et le contrôler.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre jeunesse? Les souvenirs, vous en avez beaucoup, ça c'est sûr. Hein?
Mon meilleur souvenir a été de m'apercevoir, quand j'étais à l'Institut de sociologie Solvay, que le noir, parce que c'était juste avant l'indépendance, que le Congolais n'était pas toujours le plus idiot, parce que nous étions 7 dans ma classe, tous les 6 autres étaient des Belges. Et il n'y en a aucun qui est arrivé au bout des études.
Avant l'indépendance, les Congolais étudiaient dans les mêmes écoles que les Belges?
Eh bien, moi, oui, dans l'Institut supérieur, l'université, on étudie tous ensemble. Eh bien, dans ma promotion, nous étions 7. Avec 6 Belges, eh bien, les Belges ont été récalés en cours de route et je suis le premier, donc j'ai eu le diplôme en étant seul avec tous les professeurs. Tous les professeurs qui venaient.
Les professeurs européens.
Forcément, je n'ai jamais eu un professeur. Il n'y avait pas de professeurs congolais à l'époque.
On nous disait que avant l'indépendance, c'était difficile de voir les blancs, les noirs fréquenter les mêmes instituts que les blancs. Il fallait peut-être être fils d'un évolué.
Non, ce n'était pas du tout à ce titre-là que j'étais là. C'était l'époque où les prémices de l'indépendance du pays s'annonçaient déjà et les colonisateurs avaient effectivement été bien obligés d'écouter certains missionnaires, certaines forces progressistes qui voulaient qu'on ait des cadres universitaires au Congo. Hein, c'était en 59 que j'ai fini, c'est à la veille de l'indépendance.
Vous attendiez aussi cette indépendance?
Quand j'ai commencé les études, c'est vrai que tous les étudiants attendaient cette indépendance, mais on ne la savait pas si proche. On savait qu'elle viendrait et on travaillait pour ça. On travaillait en réalité pour être un peu les égaux ou les concurrents des Belges qui étaient là, en sachant que nous voudrions un jour prendre les choses en main nous-mêmes. Mais nous ne savions pas que ce jour était si proche.
Et lorsque c'est arrivé, c'était quoi votre réaction?
Quand c'est arrivé au Katanga, je me suis beaucoup agité dans les milieux du Katanga, comme je vous ai dit, comme j'étais le premier qui sortait là. Donc j'étais très sollicité et je devais manifester que j'étais quelque chose de révolutionnaire, mais sans avoir un parti pris. J'étais en très bonne relation avec tous les dirigeants katangais. Je voyais régulièrement M. Tshombe, je voyais régulièrement M. Kibwe, je voyais régulièrement Kimba. Beaucoup m'invitaient. Alors, nous avions constitué un groupe des jeunes très dynamiques, des jeunes que je regrette beaucoup aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais été utilisés à la hauteur de leur capacité et de leur dévouement. Ils sont éparpillés et ils sont partis. Donc, nous avions des jeunes qui avaient pris des options assez fortes. Et on n'avait pas à se cacher parce que le pays était géré avec une certaine justice, un peu en faveur des Belges, bien sûr, au Katanga. Mais il y avait des partis très radicaux au Katanga à l'époque. Eh bien, nous avons créé l'Union de la jeunesse congolaise qui, elle, se mettait entre le Katanga qui a demandé la sécession et le gouvernement central qui demandait l'unité du pays.
Alors là, vous évoquez déjà vos débuts dans la politique. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Certaines personnes estiment que cette indépendance est arrivée trop tôt.
Non, elle n'est pas arrivée trop tôt. Elle est arrivée, je crois, à temps. Personne ne peut dire quand est-ce que c'est le plus efficace. Quand ça arrive, il faut simplement savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que les hommes politiques, nos pères à l'époque, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais des troubles faits, on les connaît. On a suffisamment parlé de l'histoire du Congo pour savoir pourquoi ce pays a été détourné.
Et on dit même que les Belges n'ont pas préparé les Congolais, surtout dans l'administration. Les Congolais étaient pressés d'avoir cette indépendance sans être préparés.
C'est vrai, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quelques années avant 1960, ils se sont empressés à créer des universités, des instituts supérieurs, etc., pour avoir quelques cadres congolais. Mais il faut savoir aussi qu'au Katanga, le Katanga était le pays le plus industrialisé de tout le Congo. Le Katanga était...
Pourquoi vous parlez en termes de pays? C'était une province, non? Avant la sécession, bien sûr.
Non, c'était une région. C'était une région.
C'est une région qui était la plus développée.
Non, parce que c'était... La province du Katanga a été créée d'une manière assez particulière. Pas comme le reste du Congo. La province du Katanga a été créée pour la colonisation belge. C'était une terre qui était destinée à l'occupation des Belges qui entendaient y vivre à demeure. Mais le Katanga a été le pays, la région, disons, la moins développée politiquement. À l'approche de l'indépendance, il y avait dans les autres provinces, notamment à Léopoldville, les populations congolaises de Léopoldville étaient beaucoup plus développées politiquement que ceux du Katanga. Au Katanga, on avait des industries, toute la population vivait en paix, ils étaient tous des ouvriers, le chômage était pratiquement méconnu. Mais du point de vue politique, disons, disons qu'ils étaient à un niveau où on acceptait le blanc. Tandis qu'à Léopoldville, on voulait prendre la place du blanc.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
J'avais 4 enfants, maintenant ils sont 7, mon épouse est décédée, mais j'ai 7 enfants.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas quelqu'un qui est malhonnête, disons, quelqu'un qui vous fait des bébés dans le dos. J'aime pas des gens malhonnêtes. Il faudrait me dire qu'est-ce que j'aime.
Bon, qu'est-ce que vous aimez?
ce que j'aime, j'aime la vie. J'aime les gens qui sont positifs. Je n'aime pas des plaintifs, je n'aime pas des gens qui sont pessimistes, parce que ils n'ont rien à gagner.
Radio Capi, grand témoin.
Et grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Oscar Moudzaï Mouena Kalenda, homme politique congolais, ancien commissaire spécial pour le Nord Katanga pendant la sécession katangaise. Actuellement, il est cofondateur de l'Alliance des Patriotes Congolais APC. Parlons de vos débuts dans la politique. Vous aviez déjà commencé à effleurer un peu vos débuts dans la politique en parlant de ce regroupement des jeunes qui s'était mis entre ceux qui voulaient la sécession du Katanga et le gouvernement central.
C'est bien ça.
Et donc tout est parti de là.
Tout est parti de là. Cette union de la jeunesse congolaise avait en face les férus de l'indépendance du Katanga, ainsi que les forces de Léopoldville qui voulaient le Congo uni. Au Katanga même, il y avait aussi cette division. Il y a des populations, disons, des tribus locales qui prenaient l'indépendance du Katanga, non pas parce qu'ils y croyaient, mais parce que les colons belges qui étaient établis au Katanga voulaient que ça soit ainsi. Ils voulaient avoir des alliés congolais pour que leur cause puisse avoir une justification ou une base.
Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé certains leaders d'opinion katangais.
C'est exact. Mais il faut remarquer aussi, c'est pour ça que le Nord Katanga, ceux du Nord, en fait, qui n'étaient pas très impliqués dans les mines, dans les chemins de fer, dans les industries qui étaient centrées vers le Sud, eux, ils avaient une visée nationale du Congo uni. Il y avait ceux qui réclamaient la sécession et ceux qui réclamaient l'unité. Bien, nous avons dit, créons le fédéralisme. En créant l'union de la jeunesse congolaise, nous avons voulu nous démarquer et des sécessionnistes et des unitaristes, en disant qu'on cède le pouvoir à chaque province et qu'on fasse une fédération.
Qui faisait partie de cette union? Tous les jeunes universitaires qui venaient de finir leurs études?
Non, même ceux qui étaient, la plupart, étaient encore des étudiants, plus ceux qui auraient pu être universitaires, mais qui avaient commencé la vie avant que l'université ne soit créée. Donc c'était les intellectuels, ceux qui étaient les plus instruits, qui avaient fait les humanités complètes, mais qui étaient déjà en service, qui étaient mariés et qui n'ont pas pu reprendre les études à l'université. Tout cela faisait partie, effectivement, une grande partie du moins, à l'union de la jeunesse congolaise.
On va écouter un extrait du discours de Moïse Tshombe proclamant l'indépendance du Katanga.
Après des élections forcées, un gouvernement central à majorité extrémiste s'est constitué. Des soldats dégagés de toute discipline se livrent depuis le 5 juillet à des actes d'insubordination, des menaces à des services dirigés principalement contre les populations européennes. Ce que veut l'actuel gouvernement central congolais, la désintégration de tout l'appareil militaire et administratif, l'instauration d'un régime de terreur qui chasse nos collaborateurs belges. Devant les menaces que ferait peser sur nous une plus longue soumission à l'arbitraire et à la volonté communisante du gouvernement central, le gouvernement katangais a décidé de proclamer l'indépendance du Katanga. Le gouvernement du Katanga demande à la Belgique de s'unir avec les Katanga en une étroite communauté économique, de continuer son appui technique, financier et militaire.
Oscar Moudiaï, comment vous avez jugé cette sécession katangaise? Est-ce que c'était vraiment le moment pour les Katanga de demander la sécession alors que la RDC venait à peine d'obtenir son indépendance?
Mais là encore, comme l'histoire l'a déjà dit, ce n'est pas tellement les Katangais qui ont voulu absolument réclamer la sécession
même
katangaise.
Même si derrière eux, il y avait ces Belges-là.
Ces Belges pour lesquels c'était en ce moment-là ou jamais. Parce que s'ils ne le réclamaient pas, ils avaient une chance de la réussir. Peut-être, ils espéraient. En tout cas, il fallait essayer. Mais s'ils ne l'avaient pas demandé en ce moment-là, personne ne l'aurait jamais demandé. Et les forces politiques, comme je vous dis, qui venaient de Léopoldville, étaient plus fortes que les forces politiques au Katanga, où c'est les blancs, les colons, le crisp qui est une revue universitaire, dit qu'il y avait au Katanga plus de 68% des Belges qui vivaient au Congo, ils étaient concentrés au Katanga. Donc les Katangais n'avaient donc pas grand-chose à dire eux-mêmes, sauf suivre les directives, les conseils qui leur sont donnés par les Belges qui étaient les maîtres du Katanga.
Vous, personnellement, la sécession du Katanga, est-ce que c'était une bonne chose?
Ce n'était pas une bonne chose. D'ailleurs, elle m'a puni. Elle m'a chassé.
Comment ça, expliquez-nous?
Parce que, en fait, c'est une sécession qui était, disons, empoisonnée par l'exclusion et le tribalisme, puisqu'ils expulsaient tout autre ressortissant d'une autre province qui était établie au Katanga. Qu'ils soient nés là-bas, comme c'était mon cas, comme c'était le cas de beaucoup d'autres, ils étaient indésirable au Katanga. Donc c'était un projet qui n'avait pas d'avenir. Dans une des décisions qui a été rendue publique dès la proclamation de l'indépendance par le président Tshombe, il disait que dorénavant ne sont Katangais, donc non de carte de citoyen, que les gens qui appartiennent aux tribus des souches établies au Katanga, ainsi que les hommes de bonne volonté. Et l'UCOL, qui était l'association des colons, a précisé que les hommes de bonne volonté, ce sont ceux qui appuient le projet de la sécession du Katanga et qui font tout pour que cela réussisse. Et on s'est trouvé finalement à un moment donné avec tous les gens qui venaient des autres provinces et qui étaient très nombreux et majoritaires dans les centres industriels. Ils n'étaient plus Katangais, ils n'avaient plus de carte de citoyen. Ils devaient partir. Restaient Katangais ceux qui avaient des souches établies finalement là, plus
Les hommes
de bonne volonté, c'était les blancs qui étaient là, et tous les missionnaires blancs qui étaient là, c'était les hommes de bonne volonté. Ainsi, on a vu, même au sein des églises, des abbés qui devaient fuir le Katanga parce qu'ils n'étaient plus Katangais, où ils étaient nés. Tandis que leurs collègues belges qui étaient là, eux étaient devenus Katangais. Donc, c'était en fait déjà le signe qu'ils sont en train d'étouffer le Katanga et de vider le Katanga pour qu'il reste entre les mains des colons.
Ceux qui avaient des souches katangaises, qui étaient issus des parents katangais, il y avait déjà un malaise. Il y en avait qui étaient pour cette sécession et d'autres qui étaient contre.
Et comme partout, il y a des personnes très intelligentes qui ont des vues longues, il y en a qui ont des vues courtes. Ceux qui avaient des vues courtes étaient pour, ceux qui avaient des vues longues, ils étaient contre. Je prends par exemple tous les étudiants qui appartenaient à des souches de tribus qui étaient locales, qui étaient tous des amis, qui étaient à Lovanium, qui étaient à Bruxelles, qui étaient, en France, au Canada, aux études, ils n'ont pas suivi la sécession. En tout cas, s'il y avait la sécession, ils en ont profité un peu puisqu'ils étaient boursiers, mais ils n'ont jamais accepté l'exclusion. Si bien que quand on se rencontre à Léopoldville, avec eux, vous oubliez complètement la séparation. Le tribalisme, vous l'oubliez. Mais lorsque, après la sécession, Tshombe est arrivé ici, on s'est réconcilié. Lorsque le ministre Munongo, qui m'avait arrêté pourtant, mis un tôle avant de m'expulser, est arrivé ici, littéralement, il m'a demandé pardon.
Alors, il vous avait mis en tôle, pourquoi?
Parce que je n'étais pas très chaud pour l'indépendance. J'étais chef de cabinet du ministre des Affaires Sociales, du Travail et des Affaires Sociales. Peut-être que j'ai beaucoup parlé, que les services de sécurité ont trouvé que je n'étais pas très zélé pour rester au Katanga, alors que je faisais exception. Beaucoup d'autres personnes étaient parties. Moi-même, j'étais tellement intégré que personne ne pouvait savoir si je suis de souche là-bas ou pas de souche là-bas. Et mon père lui-même s'est marié là-bas, donc j'étais intégré.
Lorsque vous avez été expulsé, vous êtes venu à Léopoldville.
Bien, j'étais expulsé sans qu'on me le dise, parce que le président Tshombe m'a fait sortir de la prison à condition que j'accepte de travailler avec le groupe de Belges qui était autour de lui. Le jour même que j'ai eu cette information, Monseigneur Cornelis m'a invité à dîner. Et il a insisté que je vienne avec ma femme, qui était très jeune, on avait seulement 8 mois de mariage. Il m'a invité à dîner dans l'intimité. Et Monseigneur Cornelis, après avoir dîné, m'a dit, Oscar, nous t'aimons beaucoup, mais nous sommes au courant des projets que M. Tshombe a sur toi. Dans le groupe où il veut t'intégrer, nous ne voudrions pas, je répète bien les phrases, nous ne voudrions pas regretter plus tard de n'avoir rien fait pour t'épargner. Et il ajouta, il sortit de son dessous de la table de salle à manger, 3 tickets. Voilà, nous vous remettons un ticket pour vous, un ticket pour votre madame et un ticket pour le bébé qui est né. À vous de décider. Nous aurons fait notre devoir pour avoir la conscience tranquille. Bon, je considère que c'était une manière de me dire, partez. Et je suis parti.
Vous êtes venu à Kinshasa, en fait, à Léopoldville,
À Léopoldville.
Alors avant de parler de la fonction de commissaire spécial que vous avez occupée, on va faire une petite pause. Il vous arrive d'écouter de la musique de temps en temps?
J'aime beaucoup la musique. Je l'occupe en permanence dans ma maison. Il y a toujours une musique. dire.
Quel genre de musique?
Généralement du genre classique, toujours très doux, en permanence.
Vous aimez la douceur?
J'aime la douceur, mais j'aime aussi, la musique agréable. Mais la musique permanente, effectivement, c'est une mélodie classique. Mais j'aime bien écouter la chanson.
Les anciens succès, le Grand Calais, Franco, Monkey Jazz.
Presque exclusivement.
Mais quelle chanson vous ferait plaisir en ce moment?
Ah, vous me regardez avec un regard tel que je crois que la chanson que vous aimez, je l'aimerais aussi. Je voudrais savoir quelle chanson vous aimez.
Quelle chanson vous aimez?
Bien, j'aime beaucoup de chansons anciennes. Mais me posant comme ça la question, c'est difficile. Je risque de donner une chanson et de regretter de n'avoir pas cité telle autre chanson.
Bon, je m'en charge. Je vous propose une chanson que moi, je préfère.
Bien, je vous connais très bien.
Ancien succès, vous avez dit, hein?
Oui.
Nouvelle génération, ça vous tente pas trop, vous?
Nouvelle génération, c'est laquelle?
Les jeunes, qui émergent maintenant dans la musique.
Moi, je me considère encore jeune, hein.
J'ai pas dit que vous étiez vieux. que vous étiez vieux, quoi.
Oui. Oui, allez-y.
Ben, jeune par rapport à vous, c'est ça. Voilà,
oui.
C'est ça que je veux dire.
Bien, ok, allez-y.
Je vous propose la chanson Mazé de Taboulay. On va demander à Dieudonné Nyangassa s'il peut nous balancer cette chanson. Dieudonné, est-ce que tu as la chanson de Mazé? Voilà, merci. C'est parti avec Mazé. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Nzoto mazé na mona moto nini na mekana yo te motema na nge kangami motambo na yo pape kisa patikala na sonio elongi nzoke sangisa ba charme mazé ole kantela bato banso bako baluka kitoke tonjo nzoto mazé Bako ma baemba vraiment na mona temo Mobimba ya moto heto na nzoto niligas Ezali likambo bana mibali bakufai Bandeko bata la maze na linetie Leki ya mopati bi maze Aleka mibali mitema mikobeta wo Mwana ya mama ite maze Bandeko bata la maze na linetie Leki ya sharufa ye maze
Mas é maluco e vamos falar na fofa na galera. Mas é bacana, vem na macambo
na wele ngo mazina zalina yo na koti kate suka seba koka mwangai na kobala yo mande baba kisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans mande otali bango pamba po makasi ya bolingo nanga mande olobela kanga nyonso bango bakolobaka kosenga o soni bateli les yeux.
Radio Capi, grand témoin.
On revient sur votre parcours politique, Oscar Mudiaï Wamudiaï. Parlez-nous un peu de cette fonction de commissaire spécial pour le Nord Katanga. En quoi consistait votre travail?
Agota, celles sont les premières expériences du gouvernement, du premier gouvernement. Je suis arrivé à Léopoldville au moment où le Congo était déjà, très morcelé. L'administration était très disparate. À Kisangani, il y avait autre chose. Au Katanga, on luttait encore pour la fin de la sécession.
Il y avait des soulèvements presque dans tout le pays.
Un peu dans tout le pays. Et à mesure que les morcelets en rébellion rentraient un peu sous les mains du gouvernement central, on envoyait tout de suite un commissaire spécial pour régulariser les choses, pour mettre les choses au point. Alors, au Nord Katanga, j'avais mission. Après la sécession, qui n'a pas été terminée comme la guillotine en une fois, il y avait tellement de séquelles. Entre-temps, le gouvernement du Sud avait nommé aussi du personnel qui dirigeait le Nord Katanga. Le Nord Katanga ne le voulait pas. Il fallait qu'il y ait, puisque c'était une province, il fallait qu'elle ait ses institutions et que le personnel mis en place soit émane de ces institutions provinciales. Alors, je suis donc parti d'abord pour faire le rapport et faire le point adressé au gouvernement. Ça, c'était le premier ministre Adula, avec ses deux vice-premiers ministres, Nassango et Kasongo, qui m'avaient proposé au président Kasavubu, qui a signé donc cette ordonnance pour que je sois commissaire spécial chargé de mettre en place les institutions provinciales. Voilà, c'est large comme ça. Alors, je devais aller sur place. J'avais rencontré là d'abord plusieurs des membres de l'UGECO du Katanga, ces jeunes qui luttaient pour le nationalisme, qui étaient déjà, qui avaient fui donc le Katanga, parce que beaucoup avaient fui le Sud, et ils étaient déjà à Léopoldville, et où ils combattaient. Et je dois vous dire, je puis le dire maintenant, j'ai rencontré Mouzé Laurent Kabila, qui était aussi un jeune, hein, de la jeunesse Baloubakat, mais que nous mettions ensemble avec la jeunesse, disons l'union de la jeunesse congolaise. Ils étaient là, en train de lutter, effectivement. Et quand je suis arrivé, je devais être sous garde militaire, parce que, en fait, les combats continuaient, hein, encore entre le Sud, ou les relents du Sud et les occupants du Nord Katanga qui, eux, voulaient récupérer leur souveraineté, disons, provinciale.
Mais la sécurité, c'était pour vous aussi, parce que vous nous avez dit, pendant la sécession, tous ceux qui ne soutenaient pas la sécession étaient expulsés ou exclus d'office. Mais est-ce que vous n'aviez pas peur de rentrer au Katanga pour aller installer les institutions provinciales, sachant qu'il y avait ce problème-là déjà des non-originaires?
Non, je savais que c'était très délicat. Peur, non, pas peur. Mais j'étais effectivement un peu anxieux. Je savais que la tâche était délicate et très grande. Mais j'avais quand même des appuis, des vrais leaders du Nord Katanga, qui m'ont beaucoup entouré et qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place ces institutions.
C'était le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale?
Bon, il n'y avait pas encore de gouvernement. Il y avait un ancien gouvernement provincial, mais qui n'existait plus. Il a fallu partir de zéro. J'ai donc pris des arrêtés pour, faire commencer la campagne, prendre d'abord les candidatures. J'ai eu beaucoup de pression. Mais avant de faire les pressions, j'avais fait le tour de toutes les chefferies du Katanga, de tout le territoire du Nord Katanga. C'était un district Donc j'étais voir tous ces... avec des amis d'ailleurs qui étaient avec moi à Elisabethville et qui luttaient et qui étaient déjà établis au Nord-Katanga.
Lesquels par exemple?
Par exemple, il y a Kasueka Jérôme, il y a Umba, pas Umba Kiamitala, un autre Umba, qui s'appelait Umba de Umba. Il y avait Kabulo Roger, principalement lui, c'était un très grand ami. Mais il y avait Sendwe qui venait me voir tous les matins. Sendwe était le leader, populaire du Nord Katanga. Et il y avait Mwamba Ilunga Prosper, qui était un ancien président de l'Assemblée provinciale. Non, qui faisait la fonction de président provincial du Nord Katanga, mais sans pouvoir effectif. J'ai simplement demandé qu'on fasse... J'ai vu tous les chefs coutumiers. J'ai reçu les délégations de tous les territoires, de toutes les chefferies.
Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce travail?
Je ne sais pas, en tête, ça a eu peut-être 5 mois. J'ai demandé qu'on me présente d'abord les candidats aux élections provinciales, des députés provinciales. Bon, il fallait sélectionner. Il y a des pressions toujours à ce moment-là. Il y a tel nom, tel n'est pas bon, etc. Je prends le cas de Moïse Kabila, par exemple. J'ai dû tricher pour qu'il puisse être candidat.
Vous avez triché?
J'ai triché une bonne tricherie pour la bonne cause.
Une tricherie.
Oui, j'ai triché. Vous savez, quand vous avez une différence de 7-8 mois pour avoir l'âge, c'est une tricherie, c'est vrai. Mais l'importance qu'il jouait, ce monsieur, dans la jeunesse katangaise, au nord Katanga, était telle qu'il fallait. Il fallait qu'il soit candidat conseiller provincial. Mais finalement, il n'a quand même pas été élu président conseiller provincial. Bon, il fallait mettre en place le conseil provincial, procéder à l'élection du président de cette assemblée provinciale, mais en mettant des consensus entre tel groupe et tel autre, on est arrivé à dresser une liste qui a été acceptée par tous.
Vous étiez satisfait de votre travail?
J'étais satisfait de mon travail, mais pas longtemps.
Pourquoi?
Parce que après que j'avais fini mon travail, je suis retourné à Léopoldville où j'ai repris mes fonctions, chef de cabinet dans la primature là. Je partais à la conférence constitutionnelle de Luluabourg et juste après, Sendwe était tué. Le Nord Katanga est entré dans le feu et toutes les institutions que j'avais mises en place étaient en feu. Et voilà un peu la déception.
Donc votre choix, c'était pour quelques temps seulement?
Pour quelques temps, parce que les relents, en fait, les sabotages continuaient certainement du sud vers le nord. Et puis ce peuple qui restait pendant 2-3 ans à se grouiller les uns dans les autres, c'était effectivement difficile de les stabiliser pour longtemps.
Je l'ai dit dans mon introduction, vous avez travaillé presque avec tous les régimes qui se sont succédés, avec le régime de Kassavubu, le régime Mobutu, dans lesquels vous avez été même ministre du portefeuille. Hein?
Oui, c'est exact. Oui. Mm-hmm. J'étais ministre du portefeuille dans le gouvernement de M. Birindois, mm-hmm. avec lequel j'étais envoyé en Italie pour étudier donc 2 ans à la gestion de la reconstruction nationale, la réconciliation des capitaux de l'État. Là aussi, j'étais satisfait, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Puisque tout le portefeuille que nous avions reconstitué n'existe plus.
Notre déception.
C'est notre déception.
Et donc, dans tous les régimes, vous avez une satisfaction suivie d'une déception.
C'est exact.
Alors, le régime Kabila arrive, vous travaillez aussi avec Laurent Desjeries Kabila.
Le régime de Kabila arrive, on m'appelle pour me proposer de diriger le cabinet du ministre d'État Victor Mpoyo, que je connaissais aussi, toujours à Elisabethville. Là, j'ai eu aussi de satisfaction de ce que nous avions fait, mais ça n'avait pas non plus duré très longtemps. Ça a duré peut-être aussi 3 ans, et puis c'était fini. Peut-être que la plus belle période où j'ai eu de satisfaction totale, c'est peut-être la période où j'étais au portefeuille. Parce que là, nous prenions des décisions et elles étaient exécutées, même par le chef d'État.
Mais après, vous étiez déçu, comme vous l'avez dit.
Je suis déçu aujourd'hui parce que aujourd'hui.
Ah d'accord, vous êtes déçu parce que tout ce que vous avez mis en place a disparu, c'est ça?
A disparu, en fait, avec le nouveau régime. Parce qu'il était au portefeuille, c'était à l'époque de Mobutu, c'était vers la fin de Mobutu. Et nous avions fait du portefeuille un fer de lance, vraiment un fer de lance de l'économie congolaise. Mais le fer de lance a été limé.
On a parlé de votre vie, votre oui. parcours politique, mais vous avez travaillé aussi dans le privé.
Oui, j'ai très longuement travaillé dans le privé en réaction à mon opposition contre le président Mobutu. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a des conseillers dans un cabinet, il faut que le conseil soit suivi ou rejeté, mais avec raison, avec explication. Lorsque vous donnez un conseil, vous, responsable à côté du ministre, le ministre est responsable de son ministère, mais les cabinets, les membres du cabinet, ils sont importants. Vous leur enlevez l'importance, eh bien, ils mettent leurs femmes, leurs familles, leurs enfants, leurs beaux-fils, etc. Alors, avec Mobutu, lorsque nous disions, nous ne voulons pas ceci, il l'exécutait. Quand nous disions, voilà, le projet fait ceci, tout ça, puisque c'est fondé, il le fait. Mais à un moment donné, il a décidé de zarianiser. Nous nous sommes opposés. Il n'a pas voulu obtempérer à nos conseils ou expliquer nos conseils. C'était décidé par le bureau politique, le comité central, etc. Bien, nous sommes partis.
Vous êtes partis, vous voulez.
Tous les deux, nous sommes partis. Mm-hmm. Et le privé m'a appelé, bien sûr, c'est dans le privé.
Alors, vous avez travaillé dans le privé, vous avez été délégué général du groupe Solbena Plastica.
Oui.
Et puis, vous avez travaillé aussi, vous avez été aussi président de la société cotonnière de Lualaba.
Oui, tout ça était ensemble, j'étais à la fois. Tout ça s'est fait ensemble, c'est une société, c'est une industrie cotonnière, le Solbena. Mm-hmm. Et donc, c'était d'office, j'étais le président aussi de société cotonnière du Lualaba, président du comité cotonnière général, le coton du sud, du nord, du sud, voilà. Les actions étaient entremêlées et mes fonctions étaient en fait de président du comité des industries textiles cotonnières.
Vous avez aussi administrateur d'Azaïr.
Oui, ça c'était en tant que représentant du gouvernement. J'étais délégué du gouvernement à Azaïr. C'est toujours pour essayer de corriger quelque chose. Dans ce moment-là, quand on m'a nommé Azaïr, Azaïr avait des problèmes. On m'a envoyé là pour contribuer à essayer de résoudre ces problèmes.
Alors, de votre longue carrière politique, qu'est-ce qui vous a... D'abord, est-ce que vous êtes satisfait?
Je suis très satisfait d'avoir contribué à quelque chose et d'avoir donné des idées qui se développent encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous êtes cofondateur de l'Alliance de Patriotes Congolais et APC. Vous vous occupez juste de votre parti politique ou vous avez des engagements en dehors du parti politique?
Bon, j'ai des engagements d'être au service de ceux qui veulent avoir des conseils. Bon, il y en a quelques-uns.
Des conseils politiques?
Des conseils politiques en tant que politicien, non, ou de conseils techniques pour ceux qui rament encore dans les sillages où j'avais été, étant donné que j'ai quand même beaucoup de documentation et beaucoup d'expérience. Mais bon, il y en a beaucoup qui viennent demander conseil. Je donne conseil avec plaisir. Et je les accompagne. Alors, en dehors de ça, bien sûr, j'anime un peu des jeunes dans leur mouvement de théâtre, des artistes. J'aime bien encadrer ces jeunes, comme j'étais dans ma jeunesse à moi. Les petites équipes de football, de quartier, bon, je les aide, je les encadre. Ceux qui font des petites scénettes, qui veulent filmer, bon, je les encadre aussi. Bon, je participe à des conférences. Mais surtout, je passe mon temps à écrire mes mémoires.
Vous nous avez dit avant l'émission que vous allez sortir, publier un livre bientôt sur votre carrière.
Non, je sors trois livres à la fois. Il y en a un qui est terminé, c'est celui de l'enfance. D'où je viens, qu'est-ce qu'on a fait? Et qui englobe la partie du Nord Katanga. Le deuxième parle de mon passage dans l'administration et dans la politique. Et le troisième parle de ma carrière quand même de 15 ans dans le secteur privé. Et le dernier que je voudrais commencer, en vous regardant, je crois que je vais quand même le faire.
Alors je vous motive comme ça.
Je vais le faire. J'avais dit non. C'est maintenant qu'on parle un peu de l'émancipation de la femme, qui ne date pas d'aujourd'hui. On exagère, les gens croient qu'ils ont inventé le mot. L'émancipation de la femme a commencé déjà. On s'en souciait déjà à l'époque où nous cherchions des fiancés. On voulait les femmes émancipées. Alors, je voudrais simplement l'intituler « Ma relation avec la femme ». Qu'est-ce que je pense de la femme? Ça me tient à cœur, je suis un sociologue.
Monsieur Oscar Mundiaï, déjà le premier sort quand?
Il est prêt, je négocie avec les éditeurs éventuels.
Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien, Oscar Mundiaï ou Mundiaï. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi, partout en RDC et même à travers le monde, que vous êtes cofondateur de l'Alliance du Patriote Congolais. Vous êtes aussi en politique congolais. Un mot par rapport à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment. Quel regard vous avez sur l'avenir de la RDC?
Inquiet.
Inquiet pourquoi?
Inquiet parce que je voudrais tant que de la même manière qu'on publie la liste des membres des institutions, l'exécutif, c'est l'exécutif surtout, parce que le ventre mou c'est l'exécutif. Eh bien, puisqu'on publie la liste de tous les membres de l'exécutif, j'aurais souhaité que tous les membres de l'exécutif de cabinet, donc, publient aussi tous les membres de leur cabinet. Ça va nous rassurer. Parce que c'est bien facile de dire qu'il y a autant de voitures, mais nous voudrions savoir qui sont dans ces voitures. Hein? Le ministre n'est pas seul. Il travaille avec une équipe. Bien, nous voudrions savoir qui sont avec le ministre de manière à pouvoir l'apprécier.
À quoi ça servirait?
Ça servirait à motiver le ministre à prendre des personnes qui sont capables, qui sont compétents, qui sont honnêtes. En les cachant, en ne les publiant pas, il y a des cabinets où peut-être il y a des crocodiles qui sont cachés, on ne sait pas. On en veut au ministre, mais oui, mais qui sont dans son cabinet? Est-ce que ce sont ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses femmes, etc.? C'est qui? C'est des fonctions publiques, hein, c'est des fonctions d'État. Bien, il faut qu'il y ait la transparence. J'ai rencontré des conseillers à qui je demande pourquoi ils ne peuvent pas conseiller telle personne à réaliser telle ou telle chose. Ben, il me dit tout simplement, moi, je suis compétent, comme tu le sais, je suis un expert, je donne mon conseil, c'est tout. S'il l'applique, c'est bien, s'il ne veut pas, bon, c'est son affaire. Non, moi j'ai beaucoup travaillé dans les cabinets, ce n'est pas son affaire. Le cabinet doit être un. Alors, si votre conseil n'est pas écouté, eh bien, vous démissionnez. Enfin, voilà pourquoi je m'inquiète.
Vous êtes inquiet de l'avenir.
Oui,
de la
oui, parce que nous sommes dirigés par des personnes que nous ne connaissons pas.
Voilà. Merci beaucoup, Oscar Mundiaï ou Mundiaï, Mouena Kalinda, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On a appris beaucoup de choses hein, sur ce qui s'est passé pendant la sécession katangaise. Je rappelle à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment que vous êtes en politique congolais, ancien commissaire spécial pour le Nord Katanga pendant la sécession katangaise. Actuellement, vous êtes cofondateur de l'Alliance des Patriotes Congolais, APC en sigle. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.